Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Idrissa Seloudia. Les États-Unis s'attendent, selon le président Donald Trump, à deux semaines très douloureuses qui pourraient les voir enregistrer encore plus de décès journaliers que les sombres records atteints mardi par plusieurs pays européens en première ligne face à la pandémie de coronavirus. Avec 865 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, le bilan atteint désormais 3873 morts pour plus de 188 000 cas officiellement déclarés aux États-Unis. Selon les projections de la Maison-Blanche, la maladie devrait faire entre 100 000 et 240 000 morts aux États-Unis avec les restrictions actuelles contre 1,5 à 2,2 millions sans aucune mesure. Au niveau mondial, la crise sanitaire continue aussi de s'aggraver avec plus de 41 000 morts selon un comptage de l'AFP. On compte en France plus de 3 500 morts maintenant. Depuis le début de la pandémie en décembre en Chine, plus de 830 000 cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe et plus de 108 000 en Asie. Au Congo-Brazzaville, deux premiers décès liés au nouveau coronavirus ont été enregistrés mardi à Pointe-Noire. Le pays est en confinement pour 30 jours avec couvre-feu nocturne, tandis que de l'autre côté du fleuve, la République démocratique du Congo a déclaré mardi soir 11 nouveaux cas confirmés pour un total de 109, dont 8 décès, tous à Kinshasa, à 4 exceptions près, un en Ituri, un au nord Kivu, deux au sud Kivu. Le pays signale 3 guérisons. La semaine prochaine sera la plus difficile pour Kinshasa. Il y a déjà un nombre assez important d'infections locales et cela va engendrer une nouvelle vague de cas dans les jours à venir. Les chiffres vont rapidement doubler, voire tripler, a déclaré le coordonnateur de la riposte, le virologue Jean-Jacques Mouyembe, dans un entretien à Jeune-Afrique. L'épidémie de coronavirus a fait 5 morts et contaminé 1350 personnes en Afrique du Sud, a annoncé mardi le ministre de la Santé, qui a noté que la progression de la maladie n'était pas aussi rapide qu'anticipée. Le précédent bilan officiel publié lundi par le président Cyril Ramaphosa faisait état de 3 morts pour 1326 cas. La fermeture de nos frontières est un facteur. Jusqu'à la semaine dernière, 70% des cas positifs étaient des visiteurs entrant dans le pays, a souligné le ministre. Les 57 millions de Sud-Africains sont placés depuis vendredi dans une période de confinement total de 3 semaines. Le président sénégalais Macky Sall a rendu hommage à l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, une grande figure du sport et une éminence grise du football, première victime au Sénégal du coronavirus. Il est décédé mardi à Dakar. Le Tchad a envoyé des soldats au Niger et au Nigeria dans le cadre de l'opération contre le groupe djihadiste Boko Haram qui a tué une centaine de militaires tchadiens en mars, a annoncé mardi le ministre de la Défense nationale, le général Mahamat Abali Sala. Le Tchad, le Niger et le Nigeria, tout comme le Cameroun, sont limitrophes du lac Tchad. Une immense étendue d'eau et de marécages parsemés d'une multitude d'îles devenues des repères idéaux pour Boko Haram. En Côte d'Ivoire, deux directeurs de journaux ont été condamnés mardi à des amendes par la justice pour, je cite, « publication de fausses informations » a rapporté à l'AFP l'un d'entre eux. C'est la troisième fois que des journaux sont condamnés ce mois-ci. La justice reprochait aux deux journaux d'avoir publié un communiqué du collectif des avocats d'un député ivoirien de l'opposition, Alain Lobogno, arrêté et incarcéré fin décembre pour complicité dans une tentative supposée d'insurrection. Voilà, c'est tout pour ce bulletin. Le journal togolais Fraternité a été suspendu par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication suite à l'apparition d'un article dénonçant la suspension de deux autres journaux après une plainte de l'ambassadeur de France. Nathalie Barge.
L'hebdomadaire Fraternité a écopé de 2 mois de suspension à partir de ce 1er avril pour propos discourtois, injurieux et diffamatoires à l'endroit des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication dans un article publié le 25 mars. Liberté et l'Alternative ont été suspendus le 23 mars, respectivement pour 15 jours et 2 mois, suite à une plainte de l'ambassadeur de France, Marc Visy. Ces journaux ont été accusés de publier des articles comportant des accusations graves, infondées et calomnieuses contre l'ambassadeur de France et Franck Paris, conseiller Afrique d'Emmanuel Macron, que ces médias soupçonnent d'ingérence dans les élections. L'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo, qui a dénoncé des irrégularités dans la présidentielle du 22 février, remportée par Fournia Singbe, est convoqué ce mercredi devant le service d'investigation criminelle de la gendarmerie.
En Côte d'Ivoire, Jacques Mangwa, président du conseil régional de Béké dans le centre du pays et membre du premier parti d'opposition, a été remis en liberté provisoire mardi après 6 mois de détention. Le point avec Eric Maniratiza.
Jacques Mangwa a été libéré hier matin, selon Kofi Kwasi Anderson, son frère cadet qui précise qu'il a bénéficié d'une liberté provisoire. Ceci a été confirmé par maître Nicolas Messan, un de ses avocats. Monsieur Mangwa, un des vice-présidents du BDCI, purgé 5 ans de prison ferme pour détention illégale de munitions de guerre après un procès en octobre 2019 où il avait clamé son innocence. Depuis, il était détenu à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Son procès en appel devait initialement se tenir en février, mais avait été reporté au 24 mars et n'a pas eu lieu en raison de l'épidémie de Covid-19. Après la découverte par la gendarmerie de munitions de guerre dans une de ses résidences près de Boaké, son entourage avait dénoncé un complot et un coup monté. Sa condamnation a été suivie de troubles qui ont fait un mort. Monsieur Mangwa dirige la plus grande région de la Côte d'Ivoire, qui est aussi une région stratégique en cette année électorale.
Le bilan du nouveau coronavirus continue de s'alourdir. La pandémie a fait plus de 40 000 morts dans le monde et contraint près de la moitié de la population mondiale au confinement, alors que les ministres des Finances du G20 promettent d'aider les pays pauvres, Jacques Aristide.
Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 ont indiqué hier vouloir soutenir les pays pauvres, à supporter le fardeau de leurs dettes et d'assister les marchés émergents pour limiter l'impact du Covid-19 sur leur économie. Le président américain Donald Trump, son homologue russe Vladimir Poutine et d'autres dirigeants des 20 premières économies de la planète ont déjà promis d'injecter 5 000 milliards de dollars dans l'économie, des prévisions faisant état d'une prochaine profonde récession en raison de la pandémie. L'Europe est la région la plus touchée par la maladie, avec près de 30 000 sur les quelques 40 000 morts. L'Italie enregistre plus de 12 400 morts et l'Espagne environ 8 189. Et selon le bilan officiel chinois et le comptage de l'université Johns Hopkins hier, davantage de personnes sont mortes du coronavirus aux États-Unis qu'en Chine, berceau de la pandémie. Le Covid-19 a fait au moins 3 415 morts aux États-Unis contre 3 305 en Chine. Plus de 3,6 milliards de personnes, soit 46,5% de la population mondiale, sont appelées ou contraintes par leurs autorités à rester chez elles. La plupart doivent respecter un confinement obligatoire. Les autres sont soumises à des couvre-feux ou vivent dans des villes en quarantaine.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a maintenu le prix garanti qu'elle verse aux agriculteurs à 825 francs CFA le kilogramme pour la mi-récolte 2019-2020 qui va du 1er avril au 30 septembre. Cette récolte intermédiaire représente environ 30% de la production nationale, estimée à 2,2 millions de tonnes. Selon les exportateurs et les compteurs de Kabos, cette année, la dite récolte devrait produire 350 000 à 400 000 tonnes contre 520 000 tonnes l'an dernier. Cette baisse s'explique par des conditions météorologiques sèches que le pays connaît depuis décembre. Kenya Airways demande l'aide financière au gouvernement pour l'aider à couvrir les coûts critiques tels que le paiement des salaires, a déclaré son président Michael Joseph. Le transporteur, dans lequel Air France détient une petite participation, n'opère qu'une poignée de vols locaux après que le gouvernement kényan a interrompu tous les vols internationaux pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Pour terminer, Samancor Chrome, l'un des plus grands producteurs mondiaux de ferrochrome, a déclaré un cas de force majeure en raison de la fermeture de 21 jours du coronavirus en Afrique du Sud. Cette situation handicape ainsi l'approvisionnement des marchés mondiaux du chrome, un ingrédient essentiel de l'acier inoxydable. Samancor a une capacité annuelle d'environ 1,2 million de tonnes de minerais de ferrochrome et de chromite.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Cette triste nouvelle pour commencer. Pape Diouf est décédé à l'âge de 68 ans à Dakar, au Sénégal. Atteint par le coronavirus, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, dans le championnat de France, avait été hospitalisé dans la capitale sénégalaise et était sous assistance respiratoire. Pape Diouf devait être rapatrié de Dakar à Nice, dans le sud-est de la France, en avion sanitaire. Son état s'est dégradé, l'avion n'a pas pu décoller. Son décès a été confirmé par la RTS, la chaîne de télévision publique du Sénégal. Bagassi Koura nous dresse son portrait.
Ancien journaliste dans les années 80, agent de joueurs, puis dirigeant de l'OM de 2005 à 2009, Diouf avait notamment contribué à bâtir l'équipe championne de France 2010 après 17 années sans titre pour l'OM. Né au Tchad, Pape Diouf est arrivé en France et à Marseille à l'âge de 18 ans. Diouf a été un agent de joueurs, notamment du Camerounais Joseph-Antoine Bell, de Marcel Desailly, Basile Boli, William Gallas, Samir Nasri ou même Didier Drogba. C'est en 2004 que Pape Diouf a pris les rênes de l'OM avant d'être officiellement nommé en 2005. Mais en 2009, Robert-Louis Dreyfus le démet. Il sera ensuite nommé président délégué un an plus tard, déplorant être le seul président noir d'un club européen. Ces dernières années, il était devenu un conférencier très sollicité, partageant sa vie entre Dakar et la France. Pape Diouf est connu pour son franc-parler. Il n'avait pas non plus hésité à se lancer en politique. En 2014, il fut candidat au municipal de Marseille. Ce mardi, Pape Diouf est mort du coronavirus, laissant un souvenir unique à Marseille, selon un tweet du Marseillais Florent Thauvin.
Aux Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam a résilié le contrat d'Abdelhak Nouri. En juillet 2017, le néerlando-marocain a été victime de lésions cérébrales après un malaise cardiaque lors d'un match amical, selon le quotidien néerlandais des Télégraphes. D'après le journal, le club a pris cette décision en raison d'une clause dans le contrat de Nouri qui prévoyait son prolongement automatique aux mêmes conditions à partir du 1er juillet 2020. Ancien grand espoir de l'Ajax, Abdelhak Nouri, 22 ans, est plongé dans un état végétatif depuis presque 3 ans. Il s'était soudainement écroulé pendant un match de préparation entre l'Ajax Amsterdam et le Werder Bremen en Autriche. L'Ajax a accepté d'assumer l'entière responsabilité concernant le sort du joueur et a présenté ses excuses aux proches. Balle au panier à présent. La diffusion du documentaire The Last Dance sur l'épopée des Chicago Bulls de Michael Jordan, prévue en juin, est avancée au 19 avril. L'annonce a été faite par la chaîne américaine diffusée sur ESPN aux États-Unis à raison de 2 épisodes par dimanche et 24 heures plus tard sur Netflix. Dans les autres pays du monde, ce documentaire fleuve en 10 épisodes est attendu par toute la planète basket en pleine période de confinement. Le 19 avril n'arrive pas assez vite, je ne peux pas attendre, à ainsi tweeter la star des Lakers, LeBron James. Ce documentaire se focalisera sur la dernière saison de Michael Jordan avec les Bulls en 1997-1998 pour mieux raconter la dynastie de Chicago qui a dominé la NBA dans les années 90 avec à savoir 2 triplés réussis en 1991, 92 et 93 et en 1996, 97 et 98.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sebunia, nous passons à nos magazines du jour. Au Cameroun, pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, les taxis ont été sommés de rouler désormais avec 3 passagers à bord, au lieu de 4 voire 5 comme auparavant. Néanmoins, le prix imposé aux passagers est resté inchangé, ainsi que celui des carburants. Les chauffeurs de taxi grincent les dents au même titre que les Camerounais à faible pouvoir d'achat. Emmanuel Jultap nous en dit plus de Yaoundé.
Wilfried est chauffeur de taxi à Yaoundé. Depuis quelques jours, comme cet après-midi, son taxi de 5 places n'a plus que le droit de transporter 3 passagers à bord afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus. Une restriction qui a fait chuter ses recettes journalières. Wilfried Ndioku, chauffeur de taxi.
Moi, aujourd'hui, je suis sorti à 6 heures. À l'heure actuelle, je suis à 8 000 francs. C'est ça. Or, avant, à l'heure 6, j'étais déjà à 15 000.
Le prix officiel du taxi au Cameroun est de 250 francs CFA, négociable parfois à la baisse selon la distance. Malgré eux, les clients payent désormais le juste prix, voire un peu plus, pour vite se déplacer. À l'instar de Francine Ngolo, élève au lycée de Mbala 2 à Yaoundé.
Quitter Mbala 2 et Mana. Je payais avant 100 francs. Maintenant, je suis obligée de donner peut-être 200 ou 150 pour arriver à Emana en taxi.
Jackson Kwayet, commerçant à Yaoundé, subit lui aussi les désagréments qu'impose désormais la distance sociale dans les taxis au Cameroun.
Nous avons mis plus de 20 minutes sur place pour chercher un taxi qui va nous amener. Au fond, nous avons été obligés d'augmenter les enchères pour pouvoir essayer de trouver un taxi abordable.
Le Cameroun compte déjà plus de 190 cas confirmés de COVID-19 selon le ministère de la Santé publique. Au cours d'une réunion restreinte dimanche dernier avec les gouverneurs et les autorités administratives des régions où des cas de nouveau coronavirus ont été recensés, le gouvernement a annoncé le maintien des mesures de restriction dans le transport public. Cependant, l'un des syndicats du transport le plus influent du Cameroun demande des mesures d'accompagnement pour les transporteurs. Le prix d'un litre de carburant à la pompe varie entre 575 et 630 francs CFA. Les chauffeurs de taxi font en moyenne une recette journalière de 10 000 francs CFA. Si le gouvernement ne revoit pas à la baisse le prix des carburants, les syndicats des transports ont annoncé pour le 6 avril prochain une grève dans leur secteur d'activité. Emmanuel Jumta, Yaoundé, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Confinement des populations dans les états de Lagos, Ogun et de la capitale fédérale Abuja. Le pays compte 135 cas confirmés au Covid-19, mais ces confinements pour limiter la propagation de la maladie suscitent beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes dans ce pays où beaucoup de gens survivent de leurs activités quotidiennes. Dans les foyers, on craint donc les conséquences fâcheuses du confinement. D'Abuja, le reportage de Gilbert Tamba.
C'est une question de vie ou de mort. C'est ainsi que le président Muhammadu Buhari a qualifié la pandémie dans son discours télévisé à la nation. Les états de Lagos, Ogun et Abuja ont le plus grand nombre de cas de Covid-19. Et pour essayer de stopper la propagation, le président a annoncé la mise en confinement des populations dans ces états pour 2 semaines. Un confinement qui a commencé dans la nuit de lundi à mardi. Des citoyens doivent rester chez eux et les entreprises doivent fermer. Des mesures difficiles pour Gloria, vendeuse au marché de Douste à la banlieue d'Abuja. La situation sera difficile pour nous. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous utilisons ce que nous vendons pour nourrir nos enfants. Mais maintenant qu'on nous dit de rester à la maison pendant 14 jours, c'est très compliqué pour nous. En plus, certains d'entre nous ne vendent que des feuilles. Et c'est lorsqu'elles vendent ces feuilles que leurs enfants vont manger. Mais maintenant, elles ne peuvent pas sortir pour aller vendre. Elle n'est pas la seule à être affectée par la mesure. Simone Adebayo, conducteur des camions, pense que c'est la santé d'abord, avant tout.
I think the safety is more important.
C'est d'abord la santé avant tout pour le moment. Mais définitivement, nous allons perdre beaucoup d'argent durant cette période de 14 jours. Comme moi, je suis un conducteur et j'ai vu des revenus de mes activités journalières. Sortir tous les jours pour chercher de l'argent, je ne suis pas un salarié. Mais pour le moment, la santé est plus importante. Donc, tout le monde doit rester à la maison. Le président nigérien estime que les responsables sanitaires utiliseraient ce temps pour y trouver ceux qui seraient entrés en contact avec des cas positifs. Buhari a ajouté que le gouvernement interdit également les voyages interurbains et interétatiques. La perturbation des voyages aériens due à la propagation continue du coronavirus coûtera à l'industrie aéronautique nigériane plus de 400 millions de dollars de revenus et plus de 22 millions d'emplois, selon l'Association internationale du transport aérien. Bala Fofana dirige une agence de voyage à Lagos.
Particulièrement dans l'industrie d'aviation, nous sommes vraiment affectés. Et c'est venu, on n'a pas planifié. Sur le plan financier, nous sommes sérieusement affectés parce qu'on a investi sur les billets, on n'a pas encore eu de retour. Et si les compagnies aériennes ne travaillent pas, c'est que l'agence de voyage ne peut pas travailler.
Pour l'économiste Odilim Umbegbara, le confinement aura des répercussions sur l'économie du pays déjà en difficulté. Avec ça, l'économie nigériane va s'enfoncer dans une crise profonde. Maintenant, comme vous le savez, beaucoup de familles seront sérieusement affectées parce qu'un certain pourcentage de Nigériens dépend des revenus de leurs activités journalières. L'économie nigériane est déjà dans une crise à cause de la chute des prix de l'or noir. Et cela, c'est parce que ce pays a refusé de diversifier son économie. Le gouvernement fédéral reste déterminé à faire tout ce qu'il faut pour lutter contre le coronavirus, a affirmé le président nigérien. Le discours de dimanche a mis fin aux spéculations sur la santé du président après que son chef de cabinet a été testé positif au nouveau coronavirus. Mais le président lui-même avait été testé négatif au test du COVID-19. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La République démocratique du Congo compte plus de 80 cas de coronavirus pour 8 décès depuis le 10 mars dernier, après le report sine die du confinement total de Kinshasa qui devait commencer samedi dernier face au risque de propagation du Covid-19. Plusieurs mesures ont été prises dans la capitale, dont la limitation du nombre de passagers dans les transports collectifs et le maintien d'une distance de plus d'un mètre entre les personnes. Les autorités peinent toutefois à faire appliquer ces mesures, alors que des secteurs économiques comme le transport et le commerce de petits articles ressentent les effets de l'interdiction de vendre des marchandises importées de Chine et d'Europe. Davantage avec Jacques Aristide.
Appliquer la distanciation sociale pour enrayer la propagation du coronavirus est un véritable défi dans la capitale congolaise où la majorité des quelque 12 millions d'habitants vivent au jour le jour sans eau ni électricité. Le gouvernement a récemment annoncé la fermeture de bars et de cafés pour empêcher les grands rassemblements. Les autorités ont également demandé aux chauffeurs commerciaux de réduire le nombre de passagers dans leurs minibus de 15 à 10 et les berlines taxis ne peuvent pas transporter plus de 3 passagers au lieu des 5 ou 6 auparavant. Le chef de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a également conseillé aux passagers de ne pas se parler pendant le trajet. Collé, un chauffeur de minibus est déterminé à limiter à 10 le nombre de passagers dans son véhicule.
Les restrictions introduites par le chef de l'État pour se protéger contre le coronavirus sont bonnes, mais ce qui nous met en colère, c'est le prix du carburant qui n'a pas changé. Il nous demande de réduire le nombre de passagers dans nos taxis, c'est bien, mais il doit nous aider en baissant le prix du carburant. Que nous puissions respirer un peu, car maintenant nous prenons que 10 personnes.
Certains Kinois doivent maintenant attendre pendant 10 heures pour avoir un moyen de transport, comme Zizou, un fonctionnaire.
Mais vous-même, l'égalité. Comme les gens se pressent depuis deux pour entrer et les gens se confinent.
Le motocycliste André insiste pour que ses passagers s'assoient à un mètre de lui en se perchant sur le bord du siège.
Bon, en tout cas, du moins, ça, Nada protégé.
En tout cas, je pense que la décision du chef de l'État nous protège. Quand je prends un client, une seule personne, je lui dis d'aller très loin à l'autre bout du taxi et de ne pas me toucher à une distance d'un mètre. Parce que nous devons respecter la décision du chef de l'État qui est aussi bonne pour notre propre protection.
Les petits commerçants sont parmi les plus touchés. Maman Toumba travaille au marché Lumumba.
Le prix était différent avant que cette maladie n'arrive. Un sac de semoule coûtait 27 000. Et aujourd'hui, nous l'achetons à 40 000. C'est la faim qui nous tuera, pas le virus. C'était possible.
Les malheurs des commerçants ont également eu un effet sur d'autres négociants comme Richard Mamboua, qui vend de la viande au même marché Lumumba.
Nous avions beaucoup de clients, mais l'interdiction de vendre des marchandises nous affecte aussi. Les commerçants étaient certains de nos clients, mais maintenant, ils ne vendent plus. Leur nombre de clients a diminué. Le cercle se rétrécit et nous avons moins d'acheteurs. Nous devons donc baisser les prix pour attirer plus de clients.
Les dirigeants africains pètent un plan de relance de 100 milliards de dollars, incluant une suspension des paiements du service de la dette pour aider le continent à combattre le coronavirus.
Parlant toujours de Covid-19, nous irons au Togo pour voir comment les dispositions prises par le gouvernement sont respectées. Les organisations de la société civile se prononcent sur le sujet et font même des propositions pour mieux contenir le virus. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Depuis le 5 mars où le premier cas de Covid-19 a été recensé au Togo, le pays ne cesse de multiplier les mesures pour limiter la propagation du virus. Entre autres dispositions, la fermeture des frontières terrestres, la fermeture des lieux de culte, des églises, des mosquées, des écoles et universités et le bouclage de certaines villes où des cas positifs ont été répertoriés. À part la fermeture des écoles et universités, les autres mesures ne sont que partiellement respectées, constate amèrement le mouvement Martin Luther King. Pasteur Edo Komi, président du MMLK.
Nous avons atteint le sommet de l'indifférence en ville un peu partout. Les gens ne portent pas de masques, il n'y a pas de gants. Et on se moque même des gens qui portent les gants. Au niveau des églises, les lieux de culte et les mosquées, on a constaté qu'il y a de l'ouverture. Le vendredi, il y a une descente pour fermer les mosquées. Ce dimanche, il y a eu encore une descente pour fermer les lieux de culte, les églises, et que ceux-là qui sont récalcitrants, on puisse les faire respecter la loi. On ne doit pas tergiverser.
Situé à 340 km au nord de Lomé, une ville infectée où des mesures de protection devaient être au maximum. La Ligue togolaise des droits de l'homme LTDH dénonce une certaine négligence au niveau de la prison civile de la localité. Maître Célestin Agbougan, président de la LTDH.
À la prison civile de Sokoré, aucune mesure n'est prise à l'entrée de la prison donc pour protéger les détenus contre d'éventuelles infections venues de l'extérieur. Contrairement à ce qui est mis en place au niveau de la prison civile de Lomé, où les visiteurs sont obligés de mettre les gants, les masques et même à l'entrée de laver les mains avant de voir le détenu.
Durant cette période, le pays tourne au ralenti. Les consignes incitent à privilégier l'usage des moyens technologiques au détriment des contacts physiques. C'est dans ce contexte que la Ligue des consommateurs du Togo LCT fait une doléance à l'attention des opérateurs de téléphonie mobile. Emmanuel Sogadi, président de la LCT.
Aller vers la gratuité des frais pour le transfert de l'argent tel que les timonies, les flouses, parce que les gens n'ont pas assez d'argent pour qu'on puisse encore continuer à faire des prélèvements dans des frais de transfert. Certains vendent la data 300 mégas à 500 francs CFA. Nous voulons les inviter peut-être à nous le vendre en augmentant le méga. Au lieu de 300 mégas, qu'on puisse aller vers 600 mégas pour le même prix. On peut faire la réduction des frais de communication. Et également, il faut aller vers le report des échéances de paiement des anciennes factures.
Au vu de la virulence de ce nouveau coronavirus et de l'indifférence observée au niveau de la population, le mouvement Martin Luther King demande à l'État de prendre des mesures fortes. nous retrouvons le pasteur Edo Komi.
Il va falloir quand même qu'on aille à l'état d'urgence. Quoique c'est maintenant, c'est le moment de faire descendre les forces de sécurité, les militaires, même dans l'arène, pour faire respecter, et il faut quand même que ça soit fait de manière régulière.
À la date du 30 mars 2020, le Togo a enregistré 34 cas positifs de Covid-19, dont 23 actifs, 10 totalement guéris et un décès. Kailasan, Lomé, VOA.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedulia et de Michel Joseph à la mise en ordre. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.